Petite phrase avec Jacques Pogam.
Voici quelques petites phrases de l'auteur et de ses personnages, extraites du livre de Frédéric Vitou, Grand Hôtel Nelson, publié chez Fayard. Un roman qui se présente à la fois comme une enquête familiale et le récit imaginaire de la jeunesse du grand-père de Frédéric Vitou, Georges, à la Belle Époque. J'écris des livres. Autrement dit, je m'immobilise, je fais un pas de côté et me retourne. Écrire, n'est-ce pas précisément tenter de se consoler, d'échanger le monde réel contre un monde imaginaire, un monde que l'on s'invente dans le silence de son bureau ? On réinvente toujours, plus ou moins, son enfance. On finit par l'idéaliser, la noircir, l'orienter. Elle devient une fiction. Alors que l'on recompose sans préjugés, au contraire, des époques que l'on n'a pas connues, qui vivent devant soi, objectives en apparence. La pudeur et la pudibonderie n'ont rien à voir. La première relève des sentiments et des états d'âme, la seconde des codes de la bienséance la plus étroite. La pudeur cache les replis du cœur, la pudibonderie masque les replis du corps. Ce n'est pas du tout la même chose. Fille de joie. Comme ce mot « joie » est étrange et même insupportable en la circonstance. Fille de plaisir, à la rigueur, car ils étaient censés en dispenser à leur clientèle. Elles devaient le faire jaillir par contrat. Mais de joie, non, vraiment, le mot n'est pas acceptable. La joie est rayonnante, la joie est mystique, un état de grâce, une inondation de l'âme et non une sécrétion du corps. C'est même une révélation divine aux yeux des croyants. Jésus, que ma joie demeure. La joie met l'âme à nu, elle ne déshabille pas le corps, elle l'accepte dans sa plénitude. La joie ne cherche pas le désir, la joie laisse le désir derrière elle, la joie est le but qui est atteint. Elle est pur émerveillement, devant le corps, devant la vie, devant l'esprit, devant l'amour. Cette apparition de Jésus se passait en plein jour, au matin radieux de Pâques. Et Madeleine y avait donné foi. Madeleine qui n'avait rien de vulgaire en elle, qui avait été ennoblie par la vie, la misère sans doute et les chagrins. Madeleine qui n'était pas une naïve, une ingénue, une simplette, mais une femme accrochée à l'existence, qui en avait vu des vertes et des pas mûres. Pourtant, elle avait cru. Elle avait reconnu Jésus. Non pas contre toute attente, mais avec toute attente et contre toute raison. Et les autres, les hommes, les malins, les apôtres, les sceptiques, les fidèles, ne la croyaient pas. Parce qu'elle était une femme sans doute, ou pis encore, parce que sept démons s'étaient autrefois emparés d'elle. Il hésita un instant. Il n'avait pas l'habitude de ces conversations de salon où l'esprit doit tenir lieu d'intelligence. Elle se tenait sur l'arête du présent, une équilibriste sur le fil du bonheur et de l'insouciance. Et qu'est-ce que l'insouciance, sinon le déni du futur ? Bien sûr, elle ne resterait pas longtemps dans cet état de grâce ou de luminosité. Elle basculerait, elle s'assombrirait, elle vieillirait et elle se rangerait. Mais où ? On ne chantera jamais assez les femmes légères, les hommes légers aussi d'ailleurs, ceux qui n'insistent pas, qui passent ou glissent à la surface de la vie, qui frémissent, qui caressent leurs désirs, qui murmurent, qui donnent un peu de poésie et de musique au monde, qui ne blessent pas, qui frôlent, qui sourient, qui s'éloignent. La légèreté est un idéal et par là même souvent inaccessible ou éphémère. Il arrive un temps où l'on ne glisse plus, où l'on ralentit sa course, où la bienséance vous rattrape, où les sentiments aussi vous rattrapent et donnent en quelque sorte du lest, de de la gravité et parfois du bonheur au simple plaisir. Il arrive un temps où la parole reprend le pas sur la musique, la vérité qui est commune sur les illusions qui ne le sont pas. Il arrive un temps où le bon sens, qui est lourd, qui a toujours besoin de s'expliquer, l'emporte sur la déraison, qui n'a nul besoin de se défendre, puisqu'elle est indéfendable. Il arrive un temps où il faut promettre, expliquer et se justifier. Ce registre, je le refermais sans regret, animé même d'une forme de dégoût pour ce Second Empire, puis cette belle époque à la fois graveleuse et policière, comme il en exista sans doute assez peu dans notre histoire. La belle époque, époque médiocre, corrompue, agitée, haineuse, drapée dans ses grands mots et ses petites vertus, ses mages d'opérette, ses savants égarés, ces anarchistes qui croyaient au lendemain qui chante, à condition que le quotidien eût des vertus suffisamment explosives et meurtrières, ces industriels et ces boursicoteurs non moins impitoyables. La belle époque de mon grand-père m'insupporte, elle me demeure étrangère, totalement étrangère même, en dépit de ses fulgurances, ses inventions, ses intuitions, du modernisme qu'elle féconda, mais je me fiche de ce modernisme-là. Non, je ne vois rien de beau ni d'exaltant dans ces années qui furent d'abord affairistes, sectaires, bourgeoises, vicelardes, racistes et irresponsables. Les massacres de la Grande Guerre, l'effondrement de l'Europe, la manipulation nationaliste des peuples en furent les avatars inéluctables. Je rappelle que Frédéric Vitoux a été reçu à l'Académie française le 27 mars 2003.